Ce jour dédié pour la refoua shlema, la guérison complète et rapide de Chava Eva Linda Bat Nicole Kemaisa. Ok, ça fait bien longtemps que je n'ai pas parlé du sujet dont je parlais beaucoup un certain temps, Mashiach. On va mettre une petite couche quand même. Pourquoi ? Pour deux raisons. D'abord, nous sommes dans quelques jours dans le mois de Nissan. Et Chazal ont dit, au mois de Nissan, le peuple d'Israël a été sauvé. Au mois de Nissan, il sera sauvé. Donc, je ne dis pas que c'est pour ce mois de Nissan. Je dis c'est peut-être pour ce mois de Nissan. Ce sont des moments opportuns. Ma chère peut venir à chaque seconde. Chaque seconde. Mais il y a des moments qui sont en plus favorables. Deuxième raison, l'actualité. Depuis l'Anschluss, je pense, l'Anschluss c'était un peu avant la Seconde Guerre mondiale, un beau jour, l'Allemagne décide de récupérer une partie de l'Autriche. Disons, ce sont des Allemands, pas des Autrichiens, et comme ça, sans de façon tout à fait arbitraire et injuste, d'accord, ils décident de s'approprier comme ça un nouveau pays. Et on a vécu une chose, pareil, ce dernier mois, la Russie, sans créer garde, comme ça, du jour au lendemain, prend la Crimée. Réaction américaine, évidemment, mais modérée. D'accord, on peut le dire devant la caméra, Obama, c'est pas un grand fighter, un grand combattant, il laisse couler et les Russes en profitent. Où est le rapport avec la Géoula ? Il y a un rapport. Bezrat Hashem. Il y a bien longtemps, quand j'étais peut-être ma première année à l'Yeshiva, ça c'était en 83, j'ai entendu un bruit qui courait au nom du Gaon de Vilna. Et c'était pas très. C'était il y a longtemps, pas clair à mes yeux, beaucoup de temps s'est passé. Ça va avec les Russes et la mer Noire. Alors lorsque j'ai appris que la Russie donc a pris la Crimée, et par cela a un accès à la mer Noire, chose qu'il n'avait pas auparavant, donc par la mer Méditerranée par le biais du détroit de Bosphore, Istanbul. Et évidemment, une forme stratégique, c'est quelque chose d'extrêmement important pour eux. Ça m'a fait tilt. Je sais que ça venait au nom de Gaon de Vilna. Maintenant, j'ai lu beaucoup, j'ai jamais vu ce truc écrit. Je demande le Rav Chazan. Rav Chazan, tu dis, c'est Rav Favelson, qui est de l'école du Gaon de Vilna. C'est... Alors, je demande de vérifier. Et il m'a dit, effectivement, il n'y a rien qui est écrit, mais il y a une Kabbalah, une tradition extrêmement puissante chez les élèves du Gaon de Vilna, que lorsque les navires russes traverseront la mer de Perse, les Bnei Israël, les fils d'Israël, revêtront des habits de fête. Bon, c'est quoi la mer de Perse ? Mer Caspienne, Golfe Persique, c'est pas la mer Noire. Mais ce dimanche, Rav Chazan revient, il me dit que dans mon quartier à moi, il y a le rabbin du Badatz, le dirigeant du Badatz, le président du Badatz, le Rav Moshe Sternbuch, Shalita, un grand de la génération, qui a une synagogue qui s'appelle Bekneset Hagra, la synagogue du Gras, du Gaon de Vilna, et il a dit, en public donc ce Shabbat-là, qu'il y a une Kabbalah, une tradition très très puissante chez les élèves du Gaon de Vilna, qui n'est pas écrite que lorsque des navires russes de guerre traverseront le détroit du Bosphore, c'est-à-dire Constantinople, c'est Istanbul actuel, Kouchta en hébreu, c'est Constantinople en français, qui est le nom de la ville d'Istanbul avant Atatürk. Atatürk, c'est lui qui a changé l'Empire ottoman en Turquie actuelle, d'accord ? Mais c'était l'Empire ottoman. Ça s'appelait Constantinople. Parce que des navires de guerre russes traverseront, donc ils doivent sortir de Crimée, traverser la mer Noire, traverseront le détroit du Bosphore en Russie, en Turquie, Constantinople, donc Istanbul, mais Israël revêtront des habits de fête. Bon, c'est sympa. Ça rentre. C'est deux raisons pour lesquelles je vais en parler aujourd'hui, devant vous et devant la caméra. Pardon ? Habit de fête, c'est Mashiach, c'est de ça qu'on parle, c'est ça le sujet traité. J'ai vu avant-hier, j'étais au mariage de la fille de mon ancien Roche Kollel. Et dans ce collège, il y avait deux personnes, lui et un autre qui l'aidait aussi, qui était plus au niveau moussarik. Lui était plus dans la Gemara, lui plus au moussarik. Le Rav Krashevski, qui s'appelle. Un bon juif de Jérusalem, un vieux de la vieille. Et je raconte ça. Il me dit, écoute, moi j'ai aussi une histoire à te raconter. Le Krashevski, il a bientôt 70 ans. Il me dit, j'ai entendu cette histoire de mon grand-père. Qu'il a entendu du grand-père de sa femme, le père de son beau-père, qui s'appelait Monsieur Gaylis. Je vous dis tous les détails parce qu'il n'y a pas trop important, mais pour savoir que ce n'est pas une histoire qui a été inventée. Qui est monté en Israël il y a environ un siècle. À l'époque, il y avait ici les Turcs. Israël était propriété de la province de Grande Syrie sous occupation ottomane turque depuis des siècles. Il y avait le responsable de la région, qui s'appelle le Pacha, d'accord, habité ici à Jérusalem. Et il y avait un très très grand rabbin, énorme. Il s'appelait Maril Diskin. Maril, Moreno Arav, c'est les initiales de Moreno Arav, notre maître. Rav, le Rav, Yeshua Leb Diskin. C'était de Brisk, originaire de Brisk. Brisk, en Europe orientale, la grande ville de Brisk. Et il a quitté Brisk, est venu s'installer ici en Israël, à Jérusalem. C'était un rabbin d'une... Je me souviens des histoires qu'on racontait à son sujet, que lui, quand il étudiait la Gemara, il étudiait 6 pshat différents par rapport aux 6 jours de la semaine. Pas des drachot, pas je vous fais maintenant un sens allégorique, tout ça. Le pshat. Comme nous, on a pshat rashi, le pshat tosot, tu rajoutes encore 5 autres pshat. Le Rajba, le Chaperif, le Rav, le Rav, 6 pshat. Et un 7e, d'après la Kabbalah. Surtout le chasse. Une fois, quelqu'un est venu, il lui a dit, j'ai découvert un livre des questions-réponses extraordinaires sur le chasse, sur la Gemara. Pour une question, tac, réponse. Question, des trucs extraordinaires. Lui, Maral Diskin ne lisait aucun livre d'Achronim. Achronim, c'est la période des 500 dernières années. Que des Rishonim. Il dit, vous devez absolument lire ce livre. Non, je n'ai pas besoin. Vous devez lire, c'est extraordinaire. Donne-moi, cite-moi les 3 premières questions qu'il te pose, et tu verras. Bon, il pose les 3 premières questions. Il dit, ok, la réponse à la première question, c'est ça. Réponse à la deuxième question, c'est ça. Réponse à la troisième question, c'est ça. C'est sur le traité, un traité Shabbat, d'accord. Et après, il continue, je vais te montrer les questions qu'il a dit. Et il continue, il a fait tout le livre, il a dit toutes les questions, toutes les réponses. Il a compris sa façon de réfléchir au type, il a fait toutes les questions-réponses du livre. La dernière, il a posé la question, il n'avait pas la réponse. Il a mis une pièce en tzedaka, tac, voici la réponse. Un géant, dit en son nom qu'une fois on lui a demandé combien il y a de feuilles dans cet arbre. Il a dit 3756. Comment on sait? Il faut aller compter, on attend que tu comptes, les feuilles, elles vont tomber, d'accord? Puis il ne faut pas se tromper, etc. Alors comment on peut savoir? Tu prends une branche, tu comptes le nombre de branches, les feuilles qu'il y a dessus, 14, voilà. Maintenant combien il y a? Et tac, il a dit, le chiffre que j'ai dit, j'ai oublié maintenant, d'accord, moins 14, d'accord. Ouais. Il voyait l'essence des choses. Il pouvait voir un arbre, voilà combien de feuilles il a, il ne va pas compter. Il voit l'essence. Bon, un rabbin d'une ampleur extraordinaire. Ce Maril Diskin a dit au grand-père de la femme du Rav Krashevski, mon ancien Rosh Kollel, il s'appelle Rabbi Yaakov Gaylis. Il lui a dit, toi Rabbi, parti du Shulchan Aruch, qui nous indique... Quelles sont les graisses interdites dans la bête? Dans chaque bête cachère, une vache, une chèvre, un mouton, il y a des graisses interdites, dont certaines sont très gravement interdites par un issour, un interdit sanctionné par le karet. Comme manger, pas bien plus grave que le porc, comme manger du pain à Pessah, comme manger le jour de Kippour, c'est karet. Le porc n'est pas karet, c'est beaucoup plus grave. Maintenant, étant donné que ce sont des lois extrêmement compliquées, le Chouranour, il donne en gros en gros aussi, mais il dit, je ne peux pas rentrer dans l'état, c'est trop compliqué au niveau de l'anatomie pour mettre ça par écrit. Il faut aller apprendre chez un vrai ménaker, quelqu'un qui a appris cela de maître à élève, comme ça, du Moshe Rabbeinu, quelles sont les graisses. C'est une graisse, ça se ressemble. Hein. Tu as une graisse qui est permise, une qui est interdite de Rabbanan, une autre de Rouata, une autre qui est carette. Il faut que savoir, par exemple, celle qui est la graisse qui entoure l'estomac, c'est carette qui entoure les reins, c'est carex, d'accord. Il y a plusieurs gaz comme ça. Alors, il faut apprendre tout cela. Et vu qu'à l'époque, ça manquait, donc là, tu vas apprendre. Voilà. On l'appelait ce monsieur, Yaakov Gaylis, on l'appelait Yaakov Hamenaker. Yaakov, le ménaker, le spécialiste dans les opérations pour enlever les graisses interdites de l'animal. Étant donné qu'il avait ce travail-là, et qu'il n'y a pas beaucoup qui étaient aussi intelligents, aussi experts que lui en la matière, il était toujours en contact avec le Marel Diskin. Un jour, Marel Diskin lui a dit, tu sais, je te raconte une histoire. Quand j'ai quitté Brisk en Europe pour venir ici en Israël, je suis passé par la Turquie. Je suis arrivé à Istanbul. Et j'ai passé une journée là-bas à Istanbul chez le rave de l'endroit, qui m'a très bien reçu, tout ça. Il m'a donné une chambre et avec des livres, etc. Et bon, je vais aller dormir, donc je vois un livre qui m'a l'air intéressant. Je sors le livre, je commence à lire. Extraordinaire. Des ridouchis, des nouveautés, des explications de ma vie, je n'ai pas vu un truc pareil. Toute la nuit, j'ai lu. Puis le matin, je suis un peu endormi. Je me réveille, je ne vois plus le livre. Je ne le trouve plus. Je regarde la bibliothèque, il n'y est plus. Je regarde par terre, tout ça, dans le lit, les draps. Il est passé, j'ai super honte. Je me lève le matin tout penaud, je vais voir le rave, je dis, écoutez, il y avait un livre, il s'appelait comme ci et comme ça, Mahane Dan, et je ne le trouve plus. Le rave, je dis, je ne sais pas. Vous ne connaissez pas ce livre? Je ne sais pas. Très bizarre. Ce livre a été écrit par Rav Shimshon Estropolai. Rabbi Shimshon Estropolai, c'est un des grands kabbalistes des 500 dernières années du monde d'Ashkenaz. Énorme. D'ailleurs, en passant, il y a un secret concernant la galère de Pessah, qu'il est bien de lire la veille de Pessah, le secret de Rabbi Shimshon Estropolai sur la Haggadah. Dans certaines Haggadotes, il se trouve, il faut le retrouver, certaines pas dans toutes, celui qui comprend, c'est passionnant, extraordinaire, c'est tout à fait compréhensible, mais c'est d'une beauté extraordinaire, d'accord, sur un secret de la sortie d'Égypte qu'il dévoile. C'est bien de le lire, et c'est marqué celui qui le lit la veille de Pessah, il y a une promesse qui sera jamais, rien de mal lui arrivera toute l'année, quelque chose comme ça. Donc chaque année on le lit, enfin moi chez moi c'est un truc binaire, on le lit. Pardon ? C'est compliqué, c'est sur les dix plaies, quels sont exactement les anges qui étaient là, et ça correspond à d'autres choses, et tatati, les cinq. C'est des trucs très, très.
Ah, c'est un vrai paragraphe,
c'est
une
page. C'est deux, trois pages. Mais c'est passionnant, passionnant. Il explique sur les dix makot, les dix plaies, comment c'est venu, et Rabbi Eliezer, trois avis, est-ce qu'il y avait, il y a eu dix makot, il y a eu Yad Hashem, il y a eu dix plaies en Égypte et 50 sur la mer, un avis qui dit 40 et 200 sur la mer, et un avis qui dit 50 en Égypte, et chacun son rabbin, ça correspond à la Gematria 2, c'est des guilgoulis, bon. Je ne vais pas vous faire le chidouche, vous verrez vous-même. Rabbi Shimshon Estropolai, qui a écrit beaucoup de livres de Kabbalah et des chidouchim extraordinaires. Et dans beaucoup de livres, il cite son livre. Pour avoir plus de détails, consulte mon livre, Mahane Dan. Rabbi Shimshon Estropolai disait qu'il était descendant de la tribu de Dan. Donc il a appelé le gros livre Mahane Dan. C'est ce livre qu'a lu le Marel Diskin en Turquie. Maintenant, ce livre, il est venu en Israël, il l'a cherché partout, n'existe pas. Après, il a vu, c'est écrit dans les écrits de Rabbi Nachman de Breslav, que ce livre était tellement kadosh, tellement saint, il avait des nouveautés tellement grandes, des secrets dévoilés tellement grands, que du ciel, on l'a retiré du monde parce que l'humanité ne pouvait pas supporter des secrets aussi grands que cela. Et Marel Diskin était tellement kadosh, tellement saint cet homme-là, alors cette nuit-là, on lui a montré comme ça, il a lu ce qu'on a permis de lire, et après, ils sont endormis. Alors il a dit, je vais te raconter une chose que j'ai vue dans ce livre-là, comme ça il a dit à Rabbi Yaakov Menaker. Monsieur Yaakov Gelis, qui a raconté cela au grand-père de mon Rosh Kollel, qui me l'a raconté avant-hier. Et vous raconterez à vos arrière-petits-enfants que Rav Sharia sur Internet l'a aussi raconté au nom de. Bon. Il a dit comme ça, il a dit, tu sais, actuellement, les Juifs ont beaucoup souffert ici en Israël. De qui? Des Turcs. Actuellement, ici en Israël, il y a les Turcs. Mais sache, un jour, ils seront chassés d'Israël par les Anglais. Les Anglais qui vont occuper la terre d'Israël. Et un jour, les Anglais aussi, ils vont partir d'Israël, mais un beau jour, vont revenir en Israël. Soit les Anglais, soit les Russes. Et à ce moment, il n'a pas dit ou les Anglais ou les Russes. Et à ce moment, les Israéliens revêtront leur habit de fête pour recevoir Mashiach. Donc on espère que Poutine va devenir complètement fou. Et il va.
Hein? Avec les Russes et les Turcs. Au début, ils disaient Turcs et Anglais, et après.
Je ne connais pas le rapport. Yeah, ça, c'est des guilous, ce sont des dévoilements d'en haut. On ne sait pas le son, c'est le comment et le pourquoi. Alors, voyant qu'aujourd'hui, tout à coup, la Russie devient folle, d'accord, carrément fou, d'accord.
Alors, ils se mettent
en situation très, très précaire. On est déjà, le problème économique, ça va très mal. Donc maintenant, il y a un grand embargo économique, c'est pas... Bon, en tout cas, faire ce qui, c'est une chose qui ne se fait plus aujourd'hui. Un temps, on allait conquérir un pays comme ça, voisin, parce que ça nous fait plaisir. C'est fini aujourd'hui. Et puis, qui fait ça? Il le fait. C'est-à-dire que ce type-là, il est, quand je dis fou, il fait des choses qui ne sont pas habituellement dans le mode de conscience normal des gens, dans le common sense. Ça ne se fait pas, un truc pareil. D'accord? Il a fait. Bon, c'est un type dangereux. Compte tenu qu'aujourd'hui, tout ce qui est au nord d'Israël, c'est la grande salade. J'ai marqué que Gog ou Magog, il faut lire Yechezkel chapitre 38, il y a une guerre de la fin des temps où un peuple venant du nord va vouloir conquérir la terre d'Israël. Et il ne sera pas tout seul, il va être accompagné avec tous les peuples de la terre. Tous seront d'invasion de la terre d'Israël. Maintenant, on ne sait pas de qui il s'agit. C'est au nord d'Israël. Alors, qui ça peut être? Le Liban, la Syrie, l'Irak, l'Iran, la Russie et la Turquie. Tous nos meilleurs amis. D'accord? La Chine, c'est à l'est. C'est à l'est. Donc, si... Je ne sais pas comment ça sera Gog ou Magog, mais je sais, j'ai des pièces de puzzle que je ne sais pas, j'ignore, mais on voit que peut-être les Russes viendront, on a une guerre de guerre, ça vient du Nord aussi. Actuellement, l'Iran est copain avec la Russie et sont aussi en situation difficile économique, ils veulent faire une bombe atomique, il y a une grande discussion, est-ce qu'on enlève les sanctions, on enlève pas les sanctions, et on se bat, donc on voit que les choses bougent au niveau atomique en Iran, la Russie, ça bouge, l'Irak, hier quelqu'un m'a envoyé un mail que... Il y a eu une étude donc sur les 214 villes du monde. La qualité de vie dans ces villes-là. Alors, tu es la meilleure du monde. Après, on descend. Quelle est la dernière ville, ou la qualité de vie la pire au monde? Bagdad. J'ai répondu au type, nous, ceux qui font cela, qui se lèvent la nuit pour pleurer la décision du temps, on parle de Bagdad. Et je pense que ce qui est marqué là-bas est en train de se réaliser. D'accord? Bagdad, qui est l'auteur de la destruction du temple de Jérusalem, le temple. Le temple détruit par les Romains, c'est un temple de beaucoup moindre importance que le temple construit par Shlomo, qui a été détruit par les Babyloniens. Là-bas, il y avait la présence divine, il y avait l'arche sainte avec les tables de la loi de Moshe Rabbeinu. D'accord? Ça, Nabuchodonosor a détruit. Et dans Télim 137, on ne lui pardonne pas jusqu'à aujourd'hui. Donc les choses commencent à bouger. D'accord? La Syrie, je vous rappelle, j'ai cité souvent ça dans mes cours, il y a un midrash du temps des Géonim, qui dit, voici le signe de la fin, quand viendra le fils de David, donc le Mashiach, lorsque tombera le Néron César de Damas. Néron César, valeur numérique, Hafez, Assad. D'accord? C'est intéressant. Il est en train de tomber. Pas encore complètement, mais les choses avancent. Et puis, si tu continues maintenant à mettre les pièces du puzzle ensemble, encore une fois, il en manque beaucoup, et ce ne sont que des suppositions, et tout le monde me connaît que je me trompe depuis 30 ans, mais je continue, mais... Tout ça, pourquoi dire? Une seule chose. Ce Moshe Shavla Rav Shleiman a dit à ses élèves, il fait un petit cours comme ça à certains élèves proches de lui, il leur dit, nous voyons déjà la lumière du Mashiach se profiler à l'horizon, et chacun doit faire maintenant son examen de conscience, faire tshuva, voir ce qu'il peut faire. Les petits actes que nous faisons, qui peuvent avoir à nos yeux, avoir l'air très petits, ont un impact très très grand dans le ciel. Il ne faut pas du tout les dénigrer. Le petit effort que tu fais qui a l'air de rien, mais c'est un effort. Tu le fais pour Dieu. Dans les conditions, aujourd'hui, il faut comprendre qu'on est au fin fond du mal. Il n'y a pas plus mal qu'aujourd'hui. C'est la génération avant que le Mashiach revienne, c'est la pire de tout. La petite lumière que tu fais, elle éclaire énormément. Énormément. Donc, faire tshuva, avancer un peu, c'est le but de tout mon cours aujourd'hui. On a eu deux événements à Jérusalem, pas grandioses, immensément, je n'ai pas de superlatif suffisamment grand pour dire, cette année. Un, le décès de Rav Ovadia Yosef, qui a réuni près d'un million de personnes pour cet enterrement-là. Et comme je l'ai dit, le cours que j'ai fait pour les 30 jours du Rav Ovadia Yosef, c'est clair à mes yeux que le Rav Ovadia, qui aimait tellement à Israël, il n'est pas parti pour rien, il est parti amener Mashiach. C'est clair qu'un événement aussi grand, fait un Kiddush Hashem, fait une sanctification du nom de Dieu dans le monde entier, comment un million un homme, parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il a étudié la Torah, c'est tout. Il a étudié la Torah. Et qui ne lui est pas tombé dessus? Le monde entier lui est tombé dessus. Et néanmoins, le cœur d'Israël, lorsque Sharon est décédé, il y a eu moins de 2000 personnes qui sont allées à son enterrement. Tout le cas avec Sharon, j'ai rien contre lui, mais je fais une petite étude comparative, d'accord? Là, presque de 1 million. Et ça s'est organisé en moins de 6 heures. Et beaucoup s'attendaient à ce qu'il y ait des malheurs terribles, les gens, ça s'écrasait, tout ça. Rien, miraculeux. Un grand homme est parti. Quand c'est marqué que les tzadikim sont plus grands dans leur mort que dans leur vie. Alors, Ramon Vadi, il fait quoi dans le ciel? Eh bien, il est en train de se battre là-haut avec tous les grands mérites qu'il a pour que Mashiach revienne. Deuxième événement, Moi, quand on m'a dit que ça allait se faire, je me retenais de pleurer, je ne pouvais plus parler. D'accord ? Lorsqu'il y a eu la décision que tous les grands rabbins d'Israël se réunissent, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions entre eux, ils n'étaient pas d'accord, disputes, machin, là, tous se sont réunis, et ils ont décidé qu'on fait une grande, pas manifestation, mais une assemblée de prière à Dieu. Et il y a eu, c'est certain qu'il y a plus de 600 000 personnes qui étaient présentes, parce que le chef de la police a dit qu'ils pouvaient aller sans problème, 600 000, il y avait une bracha très rare, quand on voit 600 000 juifs, juifs, enfants, etc., tous, il y a au moins 600 000, on fait « Baruch atah Hashem lekol melech haolam, chacham harazim ». On a fait cette bracha, cette bracha qu'on croyait qu'on ferait qu'à l'époque messianique, on a pu la faire déjà, cette grande bracha extraordinaire. Pas besoin de les voir tous, tu vois même un petit bout du groupe des 600 000, c'est bon, on a fait la bracha. Donc il y avait au moins 600 000, il y avait en vérité entre 800 000 et 1 million de juifs réunis pour prier à Dieu. Et à un moment, tout le million de juifs ont crié ensemble « Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad ». Et tous ont imploré Dieu. Peu importe maintenant le sujet, c'était pour l'armée, pas l'armée, ok, c'est pas ça qui est important. Mais tu comprends ce qui se passe maintenant dans le monde. Am Israël a été chassé de sa terre il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, 1 million de juifs venaient ici, 3 fois par année, au temple pour prier, pour donner sacrifice à Dieu. Oui, mais depuis 2000 ans, il n'y a pas une chose pareille. On était en exil, loin, loin, loin. Qui aurait cru ? Qui aurait cru ? Dieu a joué un tour au mal. Il a fait créer ici un État qui était athée. Faisant croire à tout le monde, pour finir, tous les juifs religieux disparaîtront. Et un miracle fantastique qui a eu lieu, il y a eu la tchouva, la natalité, 1 million de juifs religieux, dans le calme, dans la dignité, pas de manif, pas de provocation. Il y a eu des provocations. Il y avait des bonnes femmes à moitié nues qui se baladaient, et des personnes derrière avec caméra. Allez voir comment le religieux va cracher ou faire... Rien, il n'y a rien eu. Miraculeux, miraculeux. Prier à Dieu. 1 million de juifs, Jérusalem qui prient à Dieu. Mais c'est colossal. Nous, on doit se réveiller de ça. C'est pré-messianique. C'est pré-messianique, il se comprend. C'est extraordinaire. Ça veut dire, on est rentré en terre d'Israël. À Jérusalem, c'est notre ville. On aurait dit ça il y a 60 ans. Un grand rabbin, il se mettait à pleurer. Qui aurait cru dans quelque chose pareil? Qui aurait cru? À 100 ans, il y a 100 ans, on n'en parle pas. Pourquoi il y a eu cette grande assemblée ? Pour prier, pour annuler, que Dieu annule les décrets contre le monde des yeshivot de l'État d'Israël. Et ça aussi va tout à fait dans le sens de ce que je veux dire ce soir, que nous sommes très proches de la fin. C'est écrit dans Traité Shabbat, page 118 ou 119, qu'il faut faire 3 repas à Shabbat. Un des repas nous aide pour éviter ce 3e repas. Il aide, quand on fait ce 3e repas, ça nous aide à éviter les souffrances de Gog ou Magog. La guerre de Gog ou Magog, la guerre de fin des temps dans laquelle le Mashiach se dévoile. Qui vient, donc l'ennemi viendra du nord et mourra ici en Israël. Le 2e repas, c'est pour être sauvé de la sentence de l'enfer. Le 1er repas, pour être sauvé des douleurs d'enfantement du Messie. Avant que le Messie arrive, c'est comme un enfantement, comme une femme qui accouche, il y a des douleurs. Quelles sont ces douleurs ? Rachel écrit sur place. Ce qui est écrit à la dernière page du traité Ketubot, vous pouvez vérifier dans vos Masertot, dans vos traités Ketubot, Dorche ben David ba, la génération où le fils de David vient, c'est-à-dire le Mashiach, catégoria betamide chachamim, catégoria des calomnies, des fausses accusations contre les étudiants en Torah. Bon, là, il faut ouvrir la radio en Israël, ça suffit. D'accord ? Pardon ? Il y a toujours eu, mais pas comme aujourd'hui, il y a eu un status quo. Il y avait, on n'est pas le religieux, ça, on se respectait. Aujourd'hui, tu es devenu une personne de seconde zone. C'est très très grave ce qui passe en Israël. C'est très très grave. Très très grave.
Même avant ça, on était respecté, non ? Les Talmidei Chachamim et tout avant.
Il y avait. Il n'y a jamais eu dans l'État d'Israël aussi grave que maintenant. Jamais, jamais, jamais. Ça prend des proportions tout à fait colossales dans l'horreur. Ça rappelle un peu, je ne vais pas rentrer trop dans des choses polémiques, c'est très grave. Ça nous encourage beaucoup, parce que ça correspond à ce que disent Chazal, que la génération où le Mashiach revient, on espère que ça sera très bientôt, catégorie Betamid Rahamim. Maintenant, la Russie, l'Amérique, comment ça va ? Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Il n'y a pas que le conflit, il y a la Corée du Nord, il y a la Syrie, il y a beaucoup de points, il y a l'Iran, beaucoup de points chauds, dangereux. Il est écrit dans le traité Megillah, la 6e année, il y aura des colottes, des voix, des bruits, des voix, comme quoi une guerre se prépare. Nous sommes en sixième année. Il y a un cycle de sept années. La septième année, c'est l'année de Shemitah, de Jachère, où on laisse la terre en plan, on ne peut pas la travailler. Les religieux font ça, nos religieux, hélas, ne le font pas. La prochaine année, l'année prochaine, donc ça sera dès Rosh Hashanah, on sera en septième année. Là, maintenant, nous sommes en sixième. Il est écrit qu'il y aura des colonnes, des voix, comme quoi une guerre se prépare. Donc, il faut suivre l'actualité, les six mois à venir jusqu'à la fin de l'année. Et si on entend que les choses commencent à chauffer, il faut déjà commencer peut-être à, je dirais pas, à acheter les costumes du Mashiach, à acheter les costumes de nos âmes propres, lavées. Quand Mashiach revient, c'est fini, mon cher ami. Comme tu es, comme ça tu restes. C'est maintenant faire tchouva. C'est pas après. Septième année, Milchamot, guerre, au pluriel, et Motse. Alors, sortant de cette année, donc les fêtes de Tishri, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, de l'année 2015, Ben David Baal, ma chère, vient, Be'ezrat Hashem. Maintenant, si Dieu a pitié de nous, il fera peut-être un raccourci et se pèse. On espère, tout ça, ce sont des suppositions. Bon, c'est sympa, l'année prochaine, donc depuis les fêtes de Tishri, donc dans six mois, on rentre dans l'année Tishri. Tishri signifie tu recevras, nos prières, Be'ezrat Hashem, les sacrifices au temple recommençant. On espère. Tout cela, ce sont des suppositions. D'autres petites choses, ce n'est pas très fort, mais quand même, peut-être. Cette année, Tisha B'Av, l'année 2014, nous serons exactement 100 ans après le Tisha B'Av de l'année 1914. Que s'est-il passé le jour de Tisha B'Av de l'année 1914 ? A commencé la Première Guerre mondiale, le jour de Tisha B'Av, 1914. Le Chafetz Chaim a dit... Aujourd'hui, Tisha B'Av 1914, c'était le début des révélés machères, des douleurs d'enfantement du Messie, qui ont amené après la Shoah, et qu'on espère mais qu'ils doivent amener machères. Combien de temps après, je ne sais pas, mais c'est intéressant de voir qu'on est exactement un siècle après. Peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans, j'ignore. La Seconde Guerre mondiale, au mois de mai cette année, nous serons 70 ans de la libération, de la fin de la Seconde Guerre mondiale, libération de la conquête de Berlin par les armées russes, au mois de mai cette année. Donc s'il y a 70 ans, c'est aussi un chiffre qui est peut-être significatif. Alors, j'espère que nous sommes dans le coup. Il y a aussi un truc sympathique, je vous ai amené ici, quelqu'un m'a envoyé il y a quelque temps, au niveau astronomique. On aura droit cette année et l'année prochaine à ce qu'ils appellent une tétrade. Une tétrade. Shuhada, qu'est-ce que c'est une tétrade? Les tétrades, voilà. Ce phénomène sera... Alors, voilà. Bon. En l'an 2014, se produiront deux éclipses totales de lune qui correspondront à des fêtes de la Torah. La première se produira le jour de Pessah, 14 Nissan, et la deuxième le jour de la fête de Sukkot, 15 Tishri. Ce même phénomène se reproduira en l'an 2015. Deux éclipses totales de la lune, le jour de Pessah et le jour de la fête de Sukkot. Pessah, Sukkot, 2014-2015, éclipse lunaire totale. Quand quatre éclipses totales de lune se suivent deux années de suite, les astronomes appellent cela une tétrade. Les tétrades associées aux fêtes de la Torah sont extrêmement rares. Une ou deux par siècle, au maximum. Plusieurs siècles pouvant se passer sans aucune tétrade associée aux fêtes d'Hachem, aux fêtes de Dieu. Depuis l'an 1 de notre ère, sept tétrades semblables seulement se sont produites, dont deux au XXe siècle. Après les années 2014-2015, il ne se produira plus aucune autre tétrade associée aux fêtes d'Hachem au cours du XXIe siècle. Au cours du XXe siècle, il s'était produit deux tétrades associées aux mêmes fêtes. À chaque fois, elles étaient en relation avec un événement important concernant Israël ou notre peuple. La première tétrade se produisit en 1949-1950, juste après l'indépendance de l'État d'Israël, et la guerre de 48 qui a duré un an, fin de la guerre 49. Tétrade. Quatre fois de suite, Pessah Sukkot. C'est chose extrêmement significatif, la création de l'État d'Israël. Hein?
Toujours aux mêmes dates, Pessah Sukkot.
Ouais, on parle maintenant d'une tétrade, ce que l'astronome, c'est quand on a quatre fois de suite. Mais là, ça tombe exactement aux fêtes juives, c'est ça qui est intéressant. Quatre fois de suite, l'éclipse lunaire, Pessah Sukkot. La deuxième était en 67-68. Qu'est-ce qui s'est passé? Garde six jours, on a récupéré l'endroit du temple, Jérusalem. D'accord. Espérons que cette année, on aura aussi une chose qui correspond à cette étrade, que ma chère vienne, et surtout qu'on soit suffisamment propre pour le recevoir, que ça se passe sans effusion de sang, que tout amis se fasse tchouva. Amen, Kenératso. Amen.